VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en temps universel. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres. En Tunisie, un homme est décédé en marge d'affrontements nocturnes à Tunis, la capitale. L'ONU promet d'appuyer la Guinée équatoriale après le coup d'État que Malabo dit avoir déjoué. Début des pourparlers entre les deux Corées après 2 ans de silence, Pyongyang aura une équipe aux Jeux Olympiques d'hiver. Dans l'actualité économique aussi, un regard sur les chiffres du chômage en Côte d'Ivoire, sans oublier les sports avec les équipes chinoises qui se battent pour Aubameyang. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, 3 ans de prison contre 10 militants anti-Kabila ont été requis, alors que la défense a plaidé pour leur acquittement. 11 militants membres du mouvement Lucha ont été arrêtés le 29 décembre 2017 à Kananga, dans le Kasaï central, lors d'une manifestation pour exiger le départ du président Kabila. Poursuivis pour désobéissance à l'autorité publique et participation criminelle, une des détenues a été libérée sur le champ à la demande du procureur car il avait été arrêté par erreur. La défense a plaidé non coupable et a demandé l'acquittement pur et simple des 10 autres membres de Lucha. Le verdict sera annoncé dans 8 jours. Procès en appel de Jean-Pierre Bemba à la CPI. L'ancien vice-président congolais a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le Mouvement de Libération du Congo, en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Sa défense a demandé à la CPI d'annuler le jugement de première instance, accusant les juges de manque d'impartialité. Son avocat, Peter Haynes, a affirmé en audience que les juges avaient choisi d'ignorer un grand nombre des preuves présentées par la défense. Les Nations Unies vont appuyer la Guinée équatoriale dans ses efforts de stabilisation après le coup d'État que Malabo a affirmé avoir déjoué fin décembre. L'annonce a été faite par François Lousséni-Fall, envoyé spécial de l'ONU dans ce pays.
Le diplomate guinéen François Lousséni-Fall dit avoir reçu des assurances du président Teodoro Obiang Nguema sans donner de précision. Il a souligné que les Nations Unies vont appuyer le pays dans ses efforts de stabilisation. L'émissaire de l'ONU est arrivé dimanche en Guinée équatoriale pour recueillir plus d'informations sur la tentative de coup d'État annoncée par Malabo. Il a rappelé que la prise de pouvoir par la force est condamnée par l'Union africaine et les Nations Unies. Le principal parti d'opposition équato-guinéen, citoyen pour l'innovation, qui affirme que certains de ses militants ont été arrêtés, a indiqué vouloir rencontrer M. Fall sans succès jusque-là. Selon ce parti, les forces de sécurité qui avaient assiégé son quartier général ont abandonné leur position lundi, peu avant l'audience de M. François Lousséni-Fall au palais présidentiel.
C'était Yacouba Ouédraogo. Au Nigeria, les militaires appuyés par des soldats de pays voisins ont lancé une grande offensive contre les 2 factions du groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'armée nigériane. Des soldats du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria visent les chefs djihadistes Aboubakar Shekau dans la forêt de Sambisa et Mamane Nour dans la région du lac Tchad, dans les 2 zones de l'état de Borno où le groupe est actif. Selon l'armée nigériane, des dizaines de combattants islamistes ont été tués et des centaines d'autres forcés de se rendre au cours des derniers jours. En Zambie, les écoles sont fermées à cause d'une épidémie de choléra qui a déjà fait au moins 61 morts. Les détails avec Morgane Guériec.
Les autorités ont annoncé le report de la rentrée scolaire, initialement prévue hier. Les rassemblements publics sont interdits. Sur ordre du président Edgar Lungu, l'armée a été déployée dans les rues de la capitale pour empêcher l'activité des vendeurs de rue. Dans le bidonville de Kanyama, à Lusaka, foyer de l'épidémie, un couvre-feu a été instauré. Malgré ces mesures, la maladie se propage à travers la capitale et dans le pays. D'après le ministre de la Santé, 114 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. On compte donc plus de 2600 malades depuis que l'épidémie s'est déclarée. Au moins 61 personnes sont décédées. Le choléra est lié aux mauvaises conditions d'hygiène et à la pauvreté. C'est une infection intestinale très contagieuse qui provoque des diarrhées qui peuvent être souvent mortelles. En 2016, la maladie a touché 38 pays dans le monde et fait près de 100 000 morts.
Des affrontements nocturnes ont éclaté dans plusieurs villes de Tunisie entre la police et les manifestants qui protestaient contre le chômage, l'inflation et la hausse des prix. Ces accrochages ont fait un mort à Tebourba, à l'ouest de Tunis. Le Point avec Jacques Aristide.
44 personnes ont été interpellées à travers le pays pour port d'armes blanches et divers faits de violence, d'après le ministère de l'Intérieur, qui affirme que ce qui s'est produit n'a rien à voir avec la démocratie ou des manifestations contre des hausses de prix. Selon un porte-parole, des manifestants ont incendié des postes de police, pillé des magasins, des banques et endommagé des biens publics et privés. Le Front populaire a appelé à la poursuite du mouvement. Cette coalition de l'opposition accuse le gouvernement tunisien de cibler injustement les pauvres et les classes moyennes par ces mesures d'austérité. Mais le gouvernement dit n'avoir d'autre solution que hausser les prix pour tenter de réduire le déficit public et satisfaire les exigences des partenaires financiers. Le Premier ministre Youssef Chahed a appelé au calme, annonçant une amélioration de la conjoncture économique cette année, tout en admettant le droit de ses compatriotes à manifester. Il a en revanche déclaré que les violences sont inacceptables.
Première preuve de vie d'un journaliste sud-africain enlevé en Syrie. Une ONG sud-africaine a révélé être en contact depuis des mois avec plusieurs interlocuteurs en Syrie qui lui ont assuré être en contact avec le photojournaliste indépendant enlevé il y a un an, presque jour pour jour, par un groupe d'hommes armés non identifiés dans le nord-ouest du pays. Shiraz Mohamed a été kidnappé le 10 janvier 2017 devant un hôpital de Darkouch à l'ouest d'Alep. Et je reviens sur l'actualité principale de cette soirée, le procès en appel de Jean-Pierre Bemba à la CPI. L'ancien vice-président congolais a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le mouvement de libération du Congo en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2013. Selon sa défense, il a demandé à la CPI d'annuler le jugement de première instance, accusant les juges de manque d'impartialité. Son avocat, Peter Hens, a affirmé en audience que les juges avaient choisi d'ignorer un grand nombre de preuves présentées par la défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord va envoyer une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud et des contacts entre militaires vont être engagés, ont convenu les deux pays lors d'un exceptionnel face-à-face. Nathalie Barge.
Cette annonce marque un grand pas en avant dans l'esprit olympique. S'est félicité le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Pour améliorer la communication entre les deux armées, Séoul et Pyongyang ont par ailleurs décidé de rétablir une liaison téléphonique qui avait été coupée début 2016. Les discussions se tenaient à Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. C'est dans ce village frontalier qu'a été signé l'armistice entre les deux pays qui sont toujours techniquement en guerre. La délégation nord-coréenne a traversé à pied la ligne de démarcation militaire pour se rendre à la Maison de la Paix, le lieu des entretiens côté sud-coréen, à quelques mètres de l'endroit où un transfuge a fait défection il y a 2 mois.
Un haut responsable du Hamas est dans un état critique dans la bande de Gaza après avoir reçu une balle dans la tête dans ce que les autorités ont présenté comme un accident. Selon le porte-parole du Hamas à Gaza, Imad Al-Alami s'est blessé accidentellement en inspectant son arme personnelle chez lui. Ces informations n'ont pu être vérifiées de sources indépendantes. Monsieur Alami a été pendant des décennies une figure éminente du Hamas qui dirige la bande de Gaza
depuis 10 ans. Israël lui reproche entre autres d'avoir planifié de multiples attentats. En Iran, le guide suprême iranien Ali Khamenei a salué le mouvement massif du peuple contre le complot des ennemis en accusant les États-Unis, Israël et un groupe d'opposition en exil d'avoir planifié les récentes protestations dans le pays. L'ayatollah Khamenei a accusé les États-Unis, les sionistes, d'avoir préparé depuis plusieurs mois des troubles dans les petites villes pour l'étendre ensuite à la capitale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le chômage reste pour les Ivoiriens le problème le plus important. L'enquête d'Afrobaromètre indique que le chômage touche environ 76% d'Ivoiriens de manière endémique. Les différentes tranches d'âge, de genre et de niveau d'instruction. Cette enquête montre également que les efforts du gouvernement ivoirien pour apporter une solution ne semblent pas encore donner des résultats satisfaisants. Plus de 3 Ivoiriens sur 5, soit 62% des sondés, estiment que le gouvernement répond plutôt mal ou très mal à la création d'emplois. Le président togolais Fornia Simbe s'est engagé à garantir 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs locaux qui bénéficieront par ailleurs de procédures allégées. Cette promesse vise à stimuler l'inclusion des jeunes et renforcer l'initiative privée pour apporter des solutions aux problématiques de l'éducation et de l'emploi. La Banque centrale de Tanzanie a suspendu 5 banques pour n'avoir pas atteint le seuil de capital minimum de 2 milliards de shillings tanzaniens exigés depuis 2012. Les banques concernées représentaient un risque pour la stabilité du système financier et pour leurs épargnants. Un rapport financier publié en mars 2017 révèle que 4 banques sur 41 banques commerciales présentes en Tanzanie contrôlent près de 70% des parts de marché en termes d'actifs, de capitaux, de dépôts et de prêts.
Tout de suite les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord l'installation du comité de normalisation de la FEMAFOOT à Bamako.
Placée le mois dernier sous tutelle de la FIFA, la Fédération malienne de football voit ce mardi son comité s'installer à Bamako. La délégation conjointe FIFA-CAF est arrivée dans la capitale malienne, composée de Véron Mosengo Omba, Segbe Pritchett, Lucas Nicolas et Eladji Wak Diop. Elle doit recevoir le secrétaire général de la FEMAFOOT, Segui Kanté, puis les représentants des deux camps, celui de Mamoutou Touré Bavieux et de Salaha Babi. Cette mission procédera à l'installation du fameux comité de normalisation et cette séance ne sera pas publique.
Le WAC Casablanca sans entraîneur.
Eh oui, Ousina Mouta et le WAC Casablanca, c'est fini. 2 mois après avoir remporté la Ligue des Champions, le coach marocain a été limogé aujourd'hui. Le technicien de 48 ans paye la mauvaise passe actuelle de ses joueurs qui ont subi lundi en match en retard face au KCM, leur 6e défaite d'affilée.
L'actualité sportive, c'est aussi les équipes chinoises qui se battent pour Aubameyang.
La Fédération chinoise de football menace 2 clubs de la Super League de sanctions s'ils ne respectent pas les règles financières sur les transferts dans le cadre de la surenchère pour recruter l'attaquant franco-gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Les champions en titre de la Super League chinoise Guangzhou Evergrande seraient prêts à payer 70 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Ils sont en concurrence avec Beijing Guoan pour recruter Aubameyang.
Zidane veut prouver sa valeur alors que le Real est loin derrière pour le titre en Espagne.
J'ai envie de montrer que je peux être un bon entraîneur aussi dans la difficulté, souligne Zinedine Zidane dans les colonnes de France Football. Alors que l'entraîneur du Real Madrid traverse une mauvaise passe en championnat d'Espagne, le Real est actuellement 4e avec 16 points de retard sur le leader Barcelone. En Liga, le Real reste sur une cinglante défaite, 3-0 lors du Classico face au Barça et un nul contre le Celta Vigo. Rappel, le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, match aller le 14 février prochain.
Et la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Minnesota n'a fait qu'une bouchée de Cleveland, 127-99. Les Raptors de Toronto se déplaçaient à Brooklyn, où ils ont difficilement battu les Nets, 114-113 après prolongation. Golden State, victoire contre Denver, 124-114. Et puis les Rockets, toujours privés de James Harden, ont dominé Chicago, 116-107. Tandis qu'à Los Angeles, les Clippers ont arraché une victoire face à Atlanta, 108-87.
C'était la page sport avec Nicolas Pineau. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Cameroun, l'inscription des électeurs pour les présidentielles 2018 est en cours. Et l'ECAM, l'organe en charge des élections, rencontre à la fois l'apathie des électeurs et les défis liés à l'insécurité dans certaines parties du pays. Reportage de notre correspondant sur place, Moki Edwin Kinzeka, rendu par Claire Morin-Gibourg.
Au marché Msindi à Yaoundé, des membres de l'ELECAM, l'organe de gestion des élections du Cameroun, vont d'un magasin à l'autre pour convaincre les électeurs de s'inscrire sur les listes. Winifred Bouey, une femme d'affaires de 34 ans, a décidé de ne pas s'inscrire. Lors de la dernière élection en 2013, je suis allée voter, mais j'ai vu que quelqu'un avait déjà voté pour moi. Et je n'étais pas la seule dans ce cas. Les partis politiques se plaignent que les élections sont toujours truquées par le gouvernement au pouvoir. Et je ne pense pas que mon vote changera quoi que ce soit.
Le Cameroun prévoit d'organiser des élections locales, parlementaires et présidentielles à partir de septembre prochain. Si ces scrutins sont tenus séparément, les élections pourraient se poursuivre en octobre. Pour beaucoup de Camerounais, il n'y a aucun suspense si le président Paul Biya cherche à se faire réélire. C'est l'un des chefs d'État les plus anciens d'Afrique. Le parti au pouvoir contrôle le Parlement et la plupart des conseils municipaux depuis des décennies. Les fonctionnaires de l'ELECAM, nommés par le président, ont rejeté ces allégations de trucage des élections. Outre le manque de mobilisation des électeurs, ces fonctionnaires sont aussi en butte à l'insécurité dans plusieurs régions. Le Cameroun connaît des tensions dans deux régions anglophones où les séparatistes ont déclaré l'indépendance de l'Ambazonia. La crise a engendré des troubles violents. L'inscription des électeurs a été suspendue dans certains endroits, comme la division Manyu dans le sud-ouest du Cameroun, où des affrontements ont régulièrement eu lieu entre l'armée et les séparatistes. Par ailleurs, le Cameroun subit les attaques récurrentes du groupe Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Beaucoup de gens qui avaient fui les violences ne sont pas encore rentrés chez eux. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a dénombré 240 000 personnes déplacées. Paulin Djorwe, responsable d'un parti de l'opposition, le Mouvement pour la Défense de la République, témoigne.
Ce précieux sésame aujourd'hui se fait très rare. Surtout que certaines postes d'identification dans nos zones d'influence ont été fermées. Vous avez par exemple à Moulvoudaï qui n'a pas de centre d'identification. Il y a Kalfou qui n'en a pas. Il y a Djiglaou qui n'en a pas. Il y a Dachira qui n'en a pas. Si l'ECAM et les pouvoirs publics veulent que les Camerounais s'inscrivent massivement, il faut rouvrir ces centres d'identification.
Et l'ECAM affirme qu'elle ne peut pas se rendre dans les zones de conflit dans le nord et dans certaines localités des régions anglophones. Pour le moment, 6,5 millions d'électeurs sont inscrits.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin. Ce mardi, à 19h, temps universel. LMF reçoit comme invité Carmen Eliam, créatrice de bijoux contemporains, pour une discussion sur le travail artisanal, avec des reportages de nos correspondants qui nous amèneront à la rencontre de familles démunies à Boaké, de jeunes volontaires à Lomé et d'écoliers aveugles à Yaoundé. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h, temps universel sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Au Burundi, les véhicules de transport usés seront interdits à la circulation sur les routes. Le président Pierre Nkurunziza l'a indiqué deux jours avant son discours de fin d'année. Il souhaite ainsi éviter le nombre d'accidents qui ont augmenté l'année dernière et demande également aux investisseurs de se mettre ensemble pour acheter des bus modernes. Mais les transporteurs indiquent que les moyens dont ils disposent ne leur permettent pas d'acheter de nouveaux véhicules. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Dans les parkings pour les bus de transport situés dans la zone de Rehero, en commune urbaine de Moua, des dizaines de bus attendent leur tour pour charger les passagers qui rentrent dans les différents quartiers au nord et au sud de la capitale. S'il est vrai que la plupart de ces bus sont en bon état, certains sont malheureusement plutôt vieux. Pour le président burundais Pierre Nkurunziza, ces vieux bus de Marquia, ces Toyota Quaster, ne seront plus autorisés au courant de cette année à transporter les personnes et les biens au Burundi. Pourquoi le président Nkurunziza?
Nous n'accepterons plus qu'un vieux bus circule au Burundi. Les clients qui s'assoient sur des clous ou des fils ou des gens qui quittent le bus quand ils veulent flamber, nous n'accepterons plus de tels cas sur les routes du pays. Nous n'accepterons pas non plus d'assister impuissants qu'il y ait des accidents où meurent de nombreux Burundais. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent dans le transport avec des règles claires. Il faut que ces personnes se mettent ensemble. Vaut mieux aller vendre des arachides ou de la farine de maïs au lieu d'amener en circulation une voiture que l'on vient d'acheter 500 000 francs burundais. On achète souvent des bus neufs avec l'Office des transports au Burundi, mais nous demandons aux associations des transporteurs de se mettre ensemble et d'investir.
À côté de ces bus qui transportent les habitants de la capitale, Bujumbura, un bureau a été érigé par des responsables qui font payer des tickets de 1000 francs burundais aux chauffeurs de ces bus. Parmi eux, un certain Roger Nyavenda, qui a eu jadis un bus de transport, mais aujourd'hui fait partie de l'association des transporteurs. Il estime que les moyens font défaut à la plupart des transporteurs.
La décision est bonne parce qu'il arrive des fois qu'il y a beaucoup de dégâts sur la route à cause des vieux véhicules. Mais cela est causé par la crise qui circule dans la population, mais dans les patrons des véhicules. L'outillage coûte cher, les pièces de rechange coûtent cher. Il n'est pas en mesure maintenant d'acheter un autre véhicule. Ce que nous demandons à notre père, le président de la République, c'est essayer maintenant de voir si on peut avoir capital quelque part. L'État peut donner une sorte de crédit. Comme ça, les gens, après avoir travaillé, ils les remboursent. Comme ça, son véhicule reste en bon état.
Clotilde Monima habite le quartier de Kamengi au nord de Bujumbura et se rend souvent en ville en prenant ses bus de transport en commun, tout en affirmant que ce domaine des transports n'attire pas la plupart des investisseurs burundais. Clotilde Monima appelle les autorités burundaises à prendre des mesures pour trouver des capitaux aux investisseurs qui manquent cruellement aujourd'hui.
Oui, cette loi serait la bienvenue pour ne plus utiliser les véhicules vieux dans les transports, mais les Burundais sont aujourd'hui pauvres. Ces vieux véhicules de transport dans lesquels certains habitants ont investi est le gage de leur survie quotidienne. On demandait au président de la République d'autoriser aux investisseurs de mettre des capitaux dans le domaine des transports de bus en commun et d'amener ainsi de nouveaux bus de transport.
À l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale, il est aujourd'hui difficile de trouver des bus neufs de transport, sauf pour quelques rares propriétaires d'agences de transport. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et Kabadou, et je vous donne rendez-vous dans votre émission interactive à votre avis à 18h en temps universel. En Algérie, des centaines de médecins en formation de spécialisation observent une grève depuis 2 mois pour réclamer l'abrogation du service civil qui les oblige à exercer dans des zones parfois reculées. Que pensez-vous de la situation des médecins et enseignants qui refusent d'aller travailler dans des zones reculées ou dangereuses? Quelle autre solution pour faire face aux besoins dans ces zones? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Et direction la Guinée, indignés par l'insalubrité de leur capitale, les habitants de Conakry ont décidé de prendre les choses en main. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour sensibiliser la population. Et tandis que sur le terrain, les initiatives citoyennes sont de plus en plus nombreuses pour changer le visage de la capitale guinéenne. Insalubrité et engagement citoyen à Conakry. Un reportage signé Tierno Ousmane Diallo, le récit de Gaby Dorsil.
« Qualifiée autrefois de perle de l'Afrique de l'Ouest, Conakry a récemment été classée par le magazine Forbes parmi les 20 capitales les plus sales au monde. En août 2017, l'éboulement de la décharge de Concasseur y a même fait 5 morts. Depuis, les appels à la mobilisation citoyenne s'intensifient. Munis de leurs smartphones, de nombreux jeunes photographient les lieux insalubres de la ville et partagent leurs publications sur la toile.
Il va falloir qu'on bouge le monde, qu'on bouge la jeunesse pour pouvoir nettoyer ici.
Avec des hashtags comme Conakry saine et propre ou les selfies déchets, ces activistes tirent la sonnette d'alarme et sensibilisent leurs concitoyens. Mohamed Dombouya est l'un d'entre eux.
Tous les grands mouvements, que ce soit sur les déchets, que ce soit le loyer cher, que ce soit l'éducation, toutes les dénonciations aujourd'hui se font sur les réseaux sociaux. Donc comme notre réalité se passe dans les ordures, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on sente beaucoup plus les jeunes en train de dénoncer, en train d'agir, en train de montrer leur dégoût ou justement leur solution face à ce problème.
Ces bénévoles consacrent tout leur week-end à l'assainissement de la plage de la minière transformée en dépotoir d'ordures. Venus des quatre coins de Conakry, ils veulent par leur action inviter la population à plus d'engagement et de responsabilité pour un environnement sain. Ainsi est née l'initiative Samedi Assainissement, dont fait partie Adama Camara.
À chaque fois, on dénonce sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, on dit que Conakry est sale, on n'a plus de plage, tout est sale. Et donc, nous, on s'est dit de se lever et de passer à l'acte.
Je suis déjà fier d'être là.
Le jeune Alpha Diallo se sent fier de prendre part à cet élan citoyen.
D'être parmi des jeunes Guinéens comme moi, qui sont motivés pour une action citoyenne, parce que personne ne gagne de l'argent ici. D'accord ? Donc on sacrifie nos week-ends, notre dimanche, pour venir faire de l'action citoyenne, pour participer à la protection de l'environnement. Moi, je crois que c'est une très bonne chose, quoi.
La gestion des ordures est un véritable défi dans la capitale guinéenne, où 2000 tonnes de déchets sont produites quotidiennement. La ville ne compte qu'une décharge publique pour près de 4 millions d'habitants. Et malgré la création en 2016 d'une agence de l'assainissement, les moyens financiers et techniques sont largement inadéquats. En attendant, ce réveil citoyen suscite beaucoup d'espoir et la mobilisation se poursuit à Conakry.
Ce lundi, le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé la fin d'un statut spécial qui protège d'expulsion plus de 200 000 Salvadoriens résidant aux États-Unis d'ici la fin en 2019. Ekia Abadou a joint à New York Bibi Moussafouri, avocate spécialisée en droit d'immigration.
On peut dire que c'est un signe de durcissement parce que dans le cas de Salvadoriens, ils ont reçu ce bénéfice depuis 2001. Ils ont bénéficié d'un statut temporaire qui se reconduit tous les 18 mois. C'est-à-dire que tous les autres régimes ont reconduit ce bénéfice, mais le gouvernement de Trump veut y mettre fin.
Les conditions initiales causées par les séismes de 2001 n'existent plus, a expliqué dans un communiqué de presse le gouvernement, l'administration. Et là, il faut qu'ils préparent leur départ ou demandent un autre statut légal d'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de facile ?
Ce n'est pas évident parce que, en fait, le TPS, donc le statut de protection temporaire, est analysé sur la base de comment, initialement, le TPS a été donné. Donc, ils sont donnés en cas de guerre, en cas d'événement de force majeure tels que earthquake, ça voudrait dire les tremblements de terre, hurricane, etc. L'estimation pour dire que les conditions sont définitivement améliorées, c'est de regarder sur le terrain.
Alors, ce délai jusqu'à 2019 doit aussi permettre au Congrès de légiférer sur une solution permanente. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre solution possible ?
La solution possible est toujours là. Ça veut dire que le Congrès peut décider de donner la possibilité de ceux qui étaient sous la protection temporaire de devenir des citoyens permanents, soit la green card, ce qui serait la résidence permanente, et de continuer leur chemin vers la nationalité.
Le gouvernement Trump aussi parle des hôpitaux et des infrastructures qui ont eu le temps d'être reconstruits à Salvador. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger pour toutes ces populations de retourner subitement après avoir vécu tant d'années aux États-Unis ou après avoir eu des enfants aux États-Unis ?
Un rapport des Nations Unies de l'année dernière montre que El Salvador a le plus haut taux de crime, ce sont des gangs. Et en général, sur le terrain, ces gangs se dirigent et targetent, ça veut dire qu'ils visent les Salvadoriens qui viennent des États-Unis. Donc, ceux qui retournent dans leur pays sont en général visés par ces gangs. Toute personne qui est restée longtemps aux États-Unis et a eu des enfants aux États-Unis, c'est de faire cette décision de dire est-ce que je retourne dans mon pays avec des enfants nés aux États-Unis qui ne connaissent que cette société, ou bien est-ce que je reste pour préserver mes enfants. Et à ce moment-là, je mets la famille en danger de déportation.
C'était Bibi Moussafouri, avocate spécialiste en droit d'immigration à New York. Et ainsi va le monde aujourd'hui, à la mise en onde de Joselle Dorsil, à la console Michel Dubinsky, à la présentation Raissa Girondin. On reste connectés sur Facebook et sur le site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.